Et voilà, quoi de mieux que ce générique des 4 Fantastiques pour vous introduire dans cette revue de presse comics qui va revenir donc sur les grandes nouveautés du mois, en dehors justement de Batman, comme je l'ai dit. Ah, j'ai dit que je ne le redirai pas. Il y a quand même des choses qui se passent ce mois de juin au niveau des comics. Alors, beaucoup de choses quand même chez DC, peut-être aussi parce que c'est les seuls où j'ai un peu trouvé de quoi mettre en revue de dépresse. Sur les autres, on a beaucoup de choses, on va dire, variées et avariées, dont 2-3 choses pour nos amis de Split Screen, puisqu'il sera également question d'adaptation au cinéma. Je commence par quoi ? Eh bien, tiens, je vais commencer par Image d'abord, avec uniquement du Topco, une fois n'est pas coutume. Il y a 2 choses intéressantes chez Topco ce mois-ci. Une qui est une nouveauté et une qui ne l'est pas. Je vais commencer par celle qui est la nouveauté. C'est une série qui est écrite par Rick Loven et avec des Jeremy Owen, Aude Essin, et des couvertures donc par Jeremy Owen et Delcon. Alors Jeremy Owen, ça peut vous dire quelque chose. Il a fait notamment des mini-séries déjà qui étaient Chuck ou Leading Man entre autres. Il a aussi bossé donc chez Image Centrale, je crois. C'est lui qui dessinait une série qui s'appelait Battle Hymn, dont on vous avait parlé ici. Donc pourquoi on en reparle ? Eh bien, une fois de plus, c'est le retour de Milo Ventimiglia. Et oui, ce scénariste qui n'en est pas un. C'est en fait au départ l'acteur de Heroes, Peter Petrelli, qui s'est lancé dans plusieurs productions. On en a déjà évoqué 2 le mois dernier. En voici une 3e. Donc ça s'appelle Berserker. Et donc qui est une série plus brutale que ce qui avait pu être fait précédemment. Donc bon, le nom l'indique en même temps, hein, vous ne serez pas surpris si on vous dit que ça joue pas dans la dentelle. Et donc voilà, il y a encore une série ongoing cette fois-ci, donc qu'il lance, ou plutôt donc qu'il a créé et qu'il fait lancer par d'autres, et qui devrait donc, pourquoi pas, si la série est un succès, lui permettre d'adapter. De s'adapter lui-même au cinéma et de jouer lui-même son propre rôle. C'est quand même quelque chose qui avait été fait à de nombreuses reprises par des acteurs que de créer des personnages. On se rappelle notamment que Rob Liefeld avait fait plusieurs personnages pour Tom Cruise, dont une série qui s'appelait Mark IV, qui a fait un bide et dont l'adaptation est à Serpent de Mer, mais bon, au bout d'un moment, Tom Cruise n'aura plus la jeunesse pour le jouer. On avait aussi la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, qui avait créé un autre personnage avec Liefeld, qui s'appelait Menace, mais là, elle l'écrivait toute seule. La série s'est arrêtée au bout du numéro 1, et donc ça n'a jamais eu de fin. Voilà. Donc là, Berserker, en plus, bon, c'est quand même joli au dessin. C'est écrit en plus par Rick Loward, donc c'est pas un nom connu dans les comics, mais c'est quand même un scénariste de film, donc il n'y a rien de se perd, et on voit vraiment la stratégie derrière tout ça de Milo Ventimiglia. Je vais réussir à prononcer tous les i dans son nom, donc c'est quand même quelque chose qu'on vous conseille de regarder d'un œil distrait si vous en avez l'occasion. Ça peut être quelque chose d'intéressant. L'autre série dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une série complète en fait, puisque Topco, vous le savez, quand les titres sont épuisés, fait des packs. Et là, ils nous refont un pack complet avec les Cyblades. Donc la série a fait long feu, il y en a eu 4 numéros uniquement. Et là, ils refont donc les 4 numéros plus le spécial donc, de Pilot Season. Et les 5 comics vous sont vendus à 8,99€. C'est-à-dire que vous avez quand même une économie substantielle. Ça nous met les comics quand même à moins de 2€ pièce. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de se lancer dans cette série. On est quand même pratiquement à moitié prix. Donc, Cyblade, c'est donc ce personnage issu de la série Cyber Force. Et donc, elle va être là pour notre plaisir dans cette série. Qui était dessinée au départ par Rick Mays, un des très rares dessinateurs au style manga que j'apprécie vraiment. Et ça a été continué par Lee Ferguson. Lee Ferguson, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. En France, vous le connaissez pour sa mini-série sur Chamber. Et aux États-Unis, il a notamment fait plusieurs autres séries dont je vous avais parlé, donc certaines qui avaient été totalement inachevées. Je pense notamment en série inachevée à Miranda Mercury, à ne pas confondre avec Anna Mercury, donc de Warren Ellis. Et donc sur Miranda Mercury, eh bien, on avait eu sur Miranda Mercury, on avait eu juste le numéro 295 qui était le premier, on n'a jamais eu la fin. Et donc après, il était passé sur Zen Intergalactic Guardian Ninja, dont je vous avais aussi parlé ici avant que ça sorte, et qui finalement, eh bien, il y en a un numéro de sortie, c'est pareil, on n'a jamais vu la suite. Donc c'est quand même le dessinateur maudit, mais que j'aime beaucoup également. Donc le Cyblade, là, le pack des 1 à 5 à 8,99€, c'est quand même hyper économique, donc on vous conseille de vous jeter dessus. On va passer à Marvel avec deux titres spécialement que j'ai repérés ce mois-ci. Le premier, c'est Beta Ray Bill God Hunter 1. Alors, un numéro de 40 pages à 3,99€. Donc là, prix habituel pour une mini-série, mais cette fois-ci quand même avec un nombre de pages augmenté. C'est dessiné par Kano, qu'on avait très peu vu chez Marvel, qui avait notamment fait une série qui s'appelait Hero chez DC, qui était donc une reprise de Dire Age for Hero, qui avait fait un gros succès critique, mais pas au niveau de vente. Le scénariste, c'est Kieran Gillen, donc un inconnu au bataillon, et donc ils reprennent le personnage de Beta Ray Bill. Vous allez me dire, moi, la dernière fois que j'ai vu Beta Ray Bill, c'était dans la série Omega Flight, et on savait pas effectivement ce qu'il foutait là. Alors en fait, il y avait sûrement des grands plans pour Beta Ray Bill quand c'était une série continue. Ils ont mis 3 épisodes à le récupérer, un à s'en débarrasser, il avait plus rien à faire dans la série, et c'est vrai que c'était un semi-échec. Et donc là, on nous ramène Beta Ray Bill dans une version plus cosmique, puisque bon, d'emblée, on nous annonce quand même du Beta Ray Bill contre Galactus. Voilà, ça devrait être quand même assez intéressant. En plus, le dessinateur est quand même bon. Donc on va attendre de voir effectivement ce que ça donne. Mais moi, je suis plutôt assez confiant sur ce titre. Donc voilà, ça sort toujours en juin. Et les couvertures seront de Patrick Zircher. L'autre titre dont on va vous parler, c'est un titre où c'est le retour du numéro 1 après l'arrêt du volume 5. Alors vous allez en train de dire, c'est un vieux titre classique de Marvel qui doit tenir un numéro qui tombe à pile 100 ou quelque chose pour qu'on nous relance la série sur les bases du départ. Alors oui, Captain America atteint le niveau 600 et reprend donc sa numérotation originale après la série Heroes Reborn, la série Heroes Return, la série Marvel Knights, la série Retour de Brubaker post-Civil War. Pas post-Civil War, post... je sais même plus sur quel crossover il l'avait refait. Si, Disassemble, pardon. Et donc là, il revient donc dans sa série numérotation d'origine pour cette série, avec un numéro 600, qui sera aussi pour l'occasion le dernier d'Ed Brubaker. Brubaker qui va visiblement prendre du large chez Marvel, puisqu'il quitte aussi le mois suivant Daredevil, qui devrait également être relaunché sur un numéro 300, si j'ai bien entendu, à vérifier. Mais voilà, ça sera de toute façon pour le mois de juillet, on en reparlera. Donc quand même, Brubaker n'est pas tout seul cette fois-ci à l'écrire. Il va entre autres être aidé par Mark Waid ou Roger Stern et bien d'autres. Au dessin, on va retrouver Butch Guys, Luke Ross, Dale Gulsham et là encore d'autres. Steve Epting, lui, se contentant de faire la couverture plus une variante d'Alex Ross. Donc, voilà. Donc, Captain America, bizarrement, on aurait tous dit le 600, ils vont le ressusciter. Pas encore. Faut dire que la série ne s'est jamais aussi bien vendue que depuis qu'il est mort. Donc, visiblement, il est toujours mort. Et on nous dit là que c'est donc l'anniversaire de la mort de Captain America. Et on nous demande où étiez-vous quand Captain America était mort. Pour ceux qui ne voient pas la référence, on est quand même complètement dans la même phrase que celle qu'on avait sur le 11 septembre. Donc où étiez-vous quand le World Trade Center s'est écroulé? Et bien là, c'est où étiez-vous quand Captain America est mort. Et on va donc avoir ce numéro qui fait quand même... 104 pages pour 4,99€. Donc là, on est quand même dans quelque chose de très économique. Avec un texte de Joe Simon, carrément sous forme d'essai. Et également, on nous annonce une galerie des 600 couvertures sur le personnage. Alors, 600 couvertures, je ne sais pas combien ils vont en mettre par page, mais effectivement, ça va quand même combler rapidement les 104 pages de cet épisode. Pardon, c'est pas un annual. On devrait quand même, faut bien reconnaître ce qui est, prendre du plaisir à revoir Marvel relancer ses séries sous les numérotations d'origine. On en avait quand même un peu franchement marre de toutes ces génériques qui étaient devenus beaucoup trop courts, tous ces génériques, oula, je suis en train de chercher la piste après, toutes ces séries pardon qui étaient très très courtes et qui se mélangeaient sans vraiment d'intérêt. Donc là voilà, on va retrouver le 600, on saura enfin où on en est quand on parle d'un numéro de Captain America, de quelle série on parle. Si d'ici chez qui on a plusieurs choses à vous proposer. La première chose que je vais moi vous faire noter, c'est Action Comics Annual 12. Pourquoi cet annual de Greg Rucka est-il intéressant? Pas pour le dessinateur, non, il ne s'agit pas de Georges Pérez, mais Pierre Pérez. Me demandez pas qui c'est, je ne le connais pas non plus. Je pense que c'est un de ses premiers travaux professionnels. Mais tout simplement, ce que vous le savez, depuis quelques mois, on en avait déjà parlé, Superman est reparti dans l'espace. La série Superman pardon est maintenant consacrée à Monel et Guardian of Metropolis, et la série Action Comics donc à Nightwing et Flambeard, deux nouveaux personnages. Et là, en fin de compte, on nous présente les origines de Nightwing et Flambeard. Donc on est vraiment dans quelque chose d'intéressant pour tous les nouveaux lecteurs de ce titre. Ça peut vous permettre aussi de vous remettre dans cette série que vous ne connaissiez pas forcément. Et ce que l'est donc ces nouvelles incarnations de Nightwing et Flambeard. Alors bon, Nightwing, on se dit bah oui, c'est Dick Grayson. Il y a eu plein d'autres incarnations de Nightwing à travers le temps. Et donc voilà, c'est une nouvelle version qui est sortie il y a maintenant un peu moins d'un an. Et donc on va enfin avoir les origines. Donc ça, c'était le premier titre qui moi m'avait paru intéressant. Le dernier, deuxième titre qui m'a interpellé, c'est GSA vs Cobra, Engine of Face, donc une mini-série en 6 parties, écrite par Eric Trotman avec des dessins de Don Kramer et en ancrage Michael Babinski avec des couvertures de Gen A. Alors Gen A, on va commencer par lui, celui que vous connaissez le mieux, c'est évidemment le dessinateur de la série Top 10 qui était sorti chez Semic et d'un spécial The 49ers qui vient de sortir chez Panini. Donc là il est avec au scénario Eric Trotman. Donc Trotman, c'est celui qui a fait des fill-in sur la série Checkmate quand Craig Rucka n'arrivait pas à suivre. Donc là Trotman se relance donc sur une nouvelle série sur la JSA contre Cobra. Donc on avait déjà eu un prélude à cette mini-série en 6 parties, puisque il y avait eu l'événement Faces of Evil, je ne sais pas si vous vous rappelez, où pendant un mois tous les titres DC étaient consacrés à des super vilains. Et donc entre autres, eh bien, on avait eu des one shot dont un consacré à Cobra, et on ne savait pas à quoi il amenait. Et bien maintenant on le sait, il amène donc à cette mini-série JSA vs Cobra Engine of Face. Donc Trotman est quand même un bon scénariste sur des scénarios plutôt politisés. Don Kramer, moi c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Il avait notamment fait dans le cadre de JSA une mini-série sur le Dr. Fate. Voilà, donc Dr. Fate qui à l'époque, rappelez-vous, était le père de Sandman et le fils de Hawkman, donc Hector Hall. Donc ce n'est plus lui aujourd'hui qui est Dr. Fate, mais c'était quand même une série qui était intéressante et qui montrait qu'on aurait pu faire beaucoup avec ce personnage, probablement plus qu'avec la série suivante avec un nouveau Cat Nelson qui n'est pas le même Cat Nelson que Cat Nelson. Voilà, donc bon, sur cette série, on sera indulgent. Il faut quand même dire que Steve Gerber était quand même gravement malade, il était même mourant quand il écrivait cette série. C'est pour ça qu'il n'a jamais eu le temps d'écrire le dernier épisode, qu'on ne savait pas la fin qu'il avait prévue, et que DC a donc fait faire trois fins différentes à trois personnes différentes. Comme ça, vous choisissez un peu la fin que vous voulez à cette mini-série. Donc c'était une manière de ne pas trahir l'idée du dessinateur, du scénariste sur cette série. Au moins, c'est le lecteur qui peut faire son choix. Donc voilà, donc une série donc avec ce personnage de Cobra qui, pour les fans de Marvel qui connaîtraient pas trop, on va leur dire que c'est finalement l'équivalent DC d'Hydra. Donc c'était les deux titres qui m'ont retenu mon attention de manière positive chez DC. Ensuite, il y a un titre excusez-moi, je tousse. Un titre un peu étonnant chez Wildstorm. On sait que les crossovers sont à la mode. On nous a fait du Alien versus Predator versus Terminator. On nous a fait du Witchblade, Tomb Raider, Darkness. On nous fait actuellement du Cyber Force, Hunter Killer, Thunderbolts et A New Avengers. Et bien là, on est dans un autre registre avec du Freddy contre Jason contre Ash. Et oui, donc les trois stars de ces films que sont Freddy, le Vendredi 13 et Army of Darkness, donc se retrouvent donc dans cette mini-série en six parties coéditées avec donc Dynamite qui exploite les droits sur le personnage de Ash. A girl like that is hard to find, but I can't get her off my mind. Alors au niveau des artistes, eh bien pas grande surprise puisque on a toujours Jeff Katz et James Curry qui sont quand même des spécialistes de ces séries chez Wildstorm qui reviennent donc cette mini série suivante qui pourrait bien effectivement être moins amusante et faire plaisir à tous les fans de films d'horreur de l'époque. Et ensuite, j'allais vous parler de Vertigo, et qui là est un peu la partie revue de dépresse du mois de juin, parce qu'il y a deux séries qui pourraient être intéressantes, alors qui ne sont pas des séries déjà, qui sont des graphic novels et qui sortent directement en hardcover. Et ce qui me fait un peu tousser, en dehors du rhume des foins, c'est le prix, puisque ce sont quand même des albums qui vont coûter 20$, alors que ce sont des albums en noir et blanc, c'est un peu très cher. Alors en fait, c'est le lancement du nouveau label de Vertigo qui s'appelle Vertigo Noir. Donc Vertigo Crime, pardon. Ça aurait pu s'appeler Vertigo Noir s'il n'y avait pas eu Marvel Noir en parallèle. Et donc le premier graphic novel, c'est Dark Entries, qui est donc par Ian Rankin et Werther Deledera, avec une couverture de Liber Mejo. Et donc sur ce titre, eh bien on retrouve donc John Constantine comme héros principal. Et le deuxième, dans un style qui visiblement va être encore plus polar, c'est Filthy Rich de Brian Azzarello avec Victor Santos. Là encore, la couverture est de Bermejo. Alors moi, ce qui me déçoit un peu, c'est que c'est quand même des albums qui vont être très chers, avec des dessinateurs peu connus, et on a un peu l'impression que Vertigo veut clore son label avant de le commencer, parce que là, c'est vraiment un risque énorme au niveau tarif. Ils ont intérêt à ce que les critiques soient très bonnes pour que les gens sautent dessus ou attendent impatiemment les graphic novels, mais là, bon, il y a quand même un peu au niveau tarif un excès de la part de DC sur ce coup-là. On va donc se retrouver avec la deuxième partie donc de cette dernière partie pardon de cette revue de presse. Alors presse, c'était presse là aussi puisque on va avoir différentes choses dont on avait on va vous parler. La première, eh bien, ça va être une nouvelle série qui va faire plaisir à tous les fans de Michael Turner et de son studio Aspen, puisque une nouvelle série est lancée, écrite par David Wool avec des dessins de Eduardo Francisco. Cette série, c'est Executive Assistant Iris, voilà. Donc sur une jeune femme moche, grosse, mal foutue, avec un bouton sur le nez. Ah non, pardon, c'est pas ça. Non, elle est belle, avec une taille qui doit être celle d'une gamine de 6 ans et des hanches beaucoup plus larges. Et donc c'est cette femme qui est à la fois secrétaire, assassin et garde du corps, dont on suivra les aventures dans cette nouvelle série, qui pourrait permettre à Delcourt de relancer le magazine Aspen, qui avait été mis en suspens suite au retard incessant pris par les séries du fait de la maladie de Michael Turner. Donc là, je pense qu'ils vont maintenant avoir tous les éléments pour relancer très prochainement ce magazine Aspen. Et donc, bien, elle n'en pas douter, Executive Assistant Iris sera probablement une des séries que vous retrouverez dans ce magazine. On a également d'autres titres qui sont ce mois-ci à mettre sous l'œil. Alors le premier, c'est Anna Mercury 2, numéro 1. Donc Anna Mercury, c'est le nouveau personnage de Warren Ellis, avec un personnage qui est une espèce de Lara Croft du surnaturel, qui voyage entre les dimensions. Alors, le concept est assez intéressant. En fait, ils ont découvert que notre planète n'était pas la seule et qu'il y avait moyen de voyager entre les dimensions et que plusieurs terres étaient reliées les unes entre elles. Alors, quand on voit le schéma des terres, on se dit que ça ressemble un peu à l'arbre de Sephiroth. C'est sûrement voulu de la part de Warren Ellis. En attendant, effectivement, Anna Mercury est donc un personnage envoyé par les services secrets pour mener l'enquête dans ces différents mondes. Alors voilà, elle bouge comme Spider-Man, elle a le fonctionnement d'une Lara Croft politique. Enfin, c'est assez bizarre, et surtout ce qui est très dommage dans la première série que j'ai eu l'occasion de lire, c'est que finalement le concept n'est pas du tout abordé, ou il est exposé mais vraiment pas exploité, et c'est quand même un peu dommage d'avoir quelque chose qui est comme du maintien de l'ordre entre différentes terres qui sont prêtes à s'étriper à la tête avec les services secrets, et se retrouver dans une exploitation d'une Lara Croft au rabais. Donc ça, c'est quand même franchement dommage sur cette série qui est Anna Mercury, et qui sort donc toujours chez Avatar, toujours 3,99 pour 32 pages. Donc ensuite, j'ai deux autres titres à vous parler. Le premier, il est étonnant parce que ce n'est pas une bande dessinée à proprement parler. C'est une adaptation de roman avec un romancier quand même très connu mais qu'on n'avait pas encore vu en bande dessinée. Peut-être parce que c'est un romancier relativement moderne. Donc si je vous dis, est-ce que les robots rêvent de moutons électriques ? Bonne question. Ah oui, et vous le savez, vous l'avez donc compris, c'est Philip K. Dick qui se retrouve adapté par Boom Studio. Donc Philip K. Dick quand même a écrit ce livre qui a inspiré le film Blade Runner. Et bien voilà, on va se retrouver donc avec cette adaptation, donc toujours chez Boom. Et là effectivement ça devrait pouvoir être intéressant. C'est écrit, dessiné par Steven Dupré. Alors on ne crédite pas de scénariste, ce qui voudrait dire que on est quand même dans une adaptation très fidèle de ce qu'avait fait Calic, pour qu'on ne nous crédite pas d'autres scénaristes. Et bon, là ça a quand même entraîné du monde sur les couvertures, parce qu'on a quand même Denis Calero ou Bill Sienkiewicz qui vont se fendre d'une couverture sur ce titre. Bill Sienkiewicz est devenu tellement rare ces derniers temps que même une couverture pourrait presque devenir un argument suffisant pour acheter une telle série. Voilà. Donc, eh bien, ça c'est plutôt la bonne nouvelle des indépendants. Boom a sorti beaucoup de choses intéressantes ces derniers temps, mais là on est carrément dans le très audacieux. Et puis ensuite, le dernier titre dont je voulais vous parler, c'était Barack the Barbarian. On nous en a fait à toutes les sauces du Barack Obama, mais là, on touche le fond. Barack se prenant pour Conan, c'est un peu pathétique. En plus, on va avoir une vilaine qui, bizarrement, va ressembler à Sarah Palin dans un costume de Red Sonja. Heureusement, il n'y a pas de photo couverture avec Sarah Palin dans le costume de Red Sonja. Je vous préviens tout de suite. En attendant, vous allez donc retrouver cette série, donc ce one-shot. Non, c'est même pas une série d'ailleurs, c'est une série. Alors là, ça devient bizarre parce que la loi américaine autorise la parodie quand c'est sur des one-shots. S'ils font une série, ils sont attaquables ensuite par les concernés. C'est Larry Hama en tout cas qui écrit cette série. On va voir effectivement ce qui l'en retourne. Mais c'est un peu ma deuxième revue de dépresse du jour parce que. Bon, on nous en a fait d'autres, hein. Ils refont aussi un one-shot sur Draft, donc une série de chez eux, avec les 100 premiers jours de Barack Obama. Je pense qu'il faut un peu arrêter. Bon, en France, on sait qu'on les aura jamais. D'abord parce que, on a quand même très peu de titres de Devil's Due en France. Et les titres politiques comme ça, on est à peu près sûr de n'en voir aucun arriver.